Bonjour. Sur les réseaux sociaux comme sur les chaînes d'infos continues à propos de laïcité, d'islam, d'islamisme, d'islamophobie, comme à propos des gilets jaunes, la violence verbale en cet automne est partout. Alors pourquoi tant de haine? Est-ce que c'est la taille infernale des réseaux sociaux et des chaînes d'infos continues qui hystérise le débat politique? Est-ce que c'est lié au contexte de recomposition actuelle et aux affrontements fratricides qui sont toujours les plus sanglants aujourd'hui comme jadis? Ce sont les questions que nous allons poser sur ce plateau à nos deux invités du jour. Laura?
Jérôme Rodriguez? Vous êtes gilet jaune, vous avez été gravement blessé à l'œil en janvier alors que vous filmiez une intervention des forces de l'ordre, c'était lors de l'acte 11. Vous avez porté plainte et l'instruction est en cours. Alexis Corbière, député de la France insoumise et auteur de Jacobin, les inventeurs de la République.
Voilà, un livre d'histoire. Et avec nous aussi sur ce plateau, notre deuxième historienne du jour, Mathilde Larrère. Avec toi, Mathilde, on reviendra sur un autre moment particulièrement violent et de recomposition de la vie politique française, l'affaire Dreyfus, dont on parle beaucoup ces temps-ci. Mais auparavant, je parlais au début de l'émission de la violence permanente des réseaux sociaux, des chaînes d'infos continues. Au cas où vous n'en seriez pas un habitué, Adèle Bello vous a préparé un petit montage de ces derniers jours.
Est-ce que vous auriez participé à une marche contre l'antisémitisme?
Mais évidemment.
Non, il n'est pas venu.
Bah, attendez.
Il n'est pas venu.
Vous seriez allé ou pas?
Je suis pas venu à celle qui a été organisée, ouais. Place de la République.
Bah, normal, il y avait les Républicains, il y avait des gens qui produisent.
Oui, oui, donc vous préférez manifester.
Qui sont xénophobes, je vais pas
vous préférez manifester. Voilà. Monsieur Messaoudan préfère manifester avec des islamistes, avec des gens de droite.
D'en haut, on remet le poison de la division en désignant les musulmans et l'islam. Les musulmans et l'islam comme bouc émissaire.
Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas entendu non plus Allah Akbar.
Vous voulez, je dis au sens large, salir cette manifestation et dire quelque part, comme le dit vous, vous dites clairement, il y a un lien quand même avec les assassins du Bataclan.
L'idéologie, que, oui. L'idéologie des frères musulmans.
Vous êtes irresponsable. Je vous le dis clairement, vous êtes irresponsable. Vous êtes irresponsable si vous pensez que les gens qui ont manifesté dimanche approuvent les crimes.
Je t'ai expliqué, non, je non, te parle de répression, je te parle de maintien de l'ordre.
Besoin de
je te parle de maintien
tu
de l'ordre.
Pas
donc, sinon, tu ne sais pas c'est quoi le maintien de l'ordre et que tu ne comprends pas et ton seul fantasme, c'est de massacrer ces salauds gauchistes fascisants. Tu n'as que ça à la bouche. Tu ne comprends pas qu'au 53e à un moment donné, la répression, il y a un problème.
Je parle de votre boucle, violences, de votre mise en scène des violences.
Mise en scène des violences, mais monsieur
Alors
Plenel,
que c'est
monsieur...
Le mouvement social.
Dire qu'il n'y a pas eu de violence sur les gilets jaunes.
Excusez-moi, le mouvement.
Sans doute
vous
que
connaissez
nous
les.
Vu. Sans doute
excusez-moi, les 25 éborgnés, mais, les mains arrachées.
Mais qu'ai-je dit, monsieur
Plenel? 15 000 gardes.
Alors, voyez,
15
moi, je ne garde pas tous vos textes, mais vous n'écoutez
3 000,
pas ce que je dis.
3 000
j'ai
condamnations.
J'ai été promis à dire que, les LB, que l'usage des LBD n'était pas normal.
Bien. Moi, j'ai vu un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Les gens de tous horizons étaient absolument unanimes. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là.
Non, mais oui.
Ah ben si, vous avez un guet-apens de 100 barbares qui prend...
Non,
qui,
on
qui,
fait pas
oui.
ça.
Alors, le dernier extrait faisait allusion aux incidents de Chanteloup-les-Vignes dans la région parisienne. Vous êtes parlementaire. Vous êtes aussi souvent sur les plateaux de télé. Sur les plateaux de télé, à l'Assemblée, dans votre circonscription... qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont les chaînes d'infos qui hystérisent le débat ou est-ce que, par exemple, dans votre circonscription, les affrontements, les débats sont aussi verbalement violents que l'extrait qu'on vient de voir là?
Je crois que c'est un tout et que ce qui est violent de plus en plus aussi, c'est la société. C'est qu'il y a des rapports sociaux de plus en plus violents. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à 9,3 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, que ça a augmenté de 500 000 depuis le début du mandat de Macron.
Vous avez vu que ce n'est pas là-dessus qu'ils s'affrontent.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la toile de fond qui fait que les rapports sociaux deviennent de plus en plus violents. Et vous avez un discours, Emmanuel Macron en est l'incarnation, qui consiste à dire aussi que tout ça, c'est des questions d'abord des responsabilités individuelles, que bougez-vous les amis. Donc tout ça crée une tension qui vise à ce que ceux qui s'en sortent sont souvent sollicités pour dire c'est la faute aux profiteurs, les fraudeurs, etc. Vous voyez. Donc tout ça d'abord, c'est dans ce contexte-là où l'idée de solidarité, de partage, est de plus en plus battu en brèche idéologiquement, même si je pense que notre société garde une passion de l'égalité, qu'après vous avez autre chose qui se rajoute. C'est la BFMisation, on va dire, de la société ou du débat. C'est-à-dire, c'est pas qu'une pierre jetée à BFM, en l'occurrence, mais c'est un format, d'abord. Moi, je vais vous dire, peut-être que vous m'avez déjà invité pour en parler, pendant la campagne présidentielle, M. Corbière voulait bien venir, on fait 10 minutes d'un débat, il y a un contradicteur, tu viens, boum, c'est une arène qui est fabriquée. T'es blanc, t'es noir, bam. Même le type, en vérité, ou la personne avec qui, en dehors du plateau, on va discuter, où les arguments seront peut-être un peu moins clivants, la manière dont c'est fabriqué, c'est immédiatement une binarisation, ça se dit, enfin le caractère binaire, un binaire immédiatement du débat, parce que ça doit aller vite, parce que c'est un format particulier, tout ça matrice beaucoup de choses. Et puis après, vous avez la pompe à clic aussi, en raison d'Internet. Moi, j'ai souvent discuté avec des journalistes, l'article qu'ils écrivent, il est relativement objectif, mais le titre, celui qui fait la titraille, comme on dit dans le jargon, est extrêmement agressif. Et puis, il faut rechercher les scandales, etc. Moi, j'en ai subi, d'autres en ont subi, où on va exacerber à partir d'une question discutable. On va fabriquer... Bon, donc tout ça crée, vous voyez ce que je veux dire ? D'abord, moi, c'est pourquoi je pense que c'est pas que la responsabilité de la presse, mais elle est l'écho aussi d'une violence sociale et d'un certain format commercial d'information qui amène à ce qu'à l'arrivée, vous avez ce résultat. Et puis après, vous avez effectivement un vieux discours qui remonte de guerre aux pauvres. Je pense à ce que dit Mme Zineb El-Redouane. Bon, je veux dire, elle ne dirait jamais la même chose sur des manifestations et des quartiers qui seraient socialement moins défavorisés que je veux dire, des quartiers populaires. Ça lui vient un peu comme une logique de dire dans les quartiers populaires, quand elles émettent, il faut tirer à balles réelles. Ça ne lui viendrait jamais à l'idée de le dire à l'occasion des violences qui ont pu se passer. Parce que, intellectuellement, c'est un imaginaire, peut-être que notre historienne nous aiderait, c'est un vieil imaginaire, le fait que quand les pauvres se mobilisent, ils sont violents, parfois ils le sont réellement d'ailleurs, et puis qu'à partir de là, il faut les calmer par la trique.
– Donc par rapport à ma question de départ, est-ce que c'est la société ou est-ce que c'est les médias ? Vous nous dites
c'est
les deux.
– Bah oui, et puis je crois, parce qu'il y a…
– Jérôme Rodriguez, comment vous recevez les images du montage qu'on vient de montrer, là, et qui sont vraiment à l'image de ce qu'on voit quasi toute la journée sur les, j'allais dire, sur les trois chaînes d'infos privées, hein, parce qu'on parle de BFM, mais il ne faut pas oublier non plus CNews et LCI.
– Moi je partirais du… Enfin voilà, je ne vais peut-être pas être aussi précis que M. Corbière, mais en tout cas… vous n'avez ici que le résultat de 40 ans de division, de corporation, de communautarisme, de division entre les gens, chacun chez soi, son beefsteak, sa télé, tout va bien jusqu'à ce que ça craque. Et je partirai aussi, enfin je me permettrai aussi de dire que tous ces gens qui se permettent de parler aujourd'hui sur les plateaux ont une certaine méconnaissance de ce qui se passe réellement aujourd'hui dans les foyers, dans la rue, dans les boulots, au chômage, chez les retraités. Et tous ces gens-là se permettent de parler sans savoir. Et... beaucoup de conneries sont dites. Alors certainement que moi, en tant que gilet jaune, entre guillemets, je dis beaucoup de conneries, mais la différence avec eux, c'est que moi, je ne suis pas payé. Eux sont vraiment payés pour le faire. Et toute cette culture aujourd'hui de la méconnaissance apporte de la désinformation, et on est plus sur de l'actualité aujourd'hui. Une actualité, on remplace une autre, qui ne permet pas aux gens aujourd'hui de se faire une idée fixe de ce qui se passe réellement. Comment dire ? Moi, au final, on fait quoi ? Est-ce qu'on n'a pas passé un cap ? L'autre jour, je regardais une émission qui parlait du free speech aux États-Unis,
ouais.
Où il est permis de tout dire, et tout et n'importe quoi, comme le fameux avocat qui a appelé au meurtre de policiers, et chose qui s'est passée, c'est-à-dire que des policiers ont été tués, le mec avance librement. On arrive en finale dans cette culture parce que tout le monde dit tout et n'importe quoi, et ça va hyper vite. Ça se compose en 140 lettres sur Twitter. Et ça apporte la division parce que les gens, au final, ne finissent même pas pour se parler. Ils se balancent des petits mots, c'est pas profond, c'est pas étudié. Et j'en veux pour preuve aujourd'hui le mouvement des Gilets jaunes, où beaucoup de gens se permettent de parler sans forcément jamais y avoir mis les pieds, ni même discuter avec les personnes qui le composent. Et ça sort tout un tas de conneries.
Le mouvement des Gilets jaunes, il est né pour beaucoup grâce à Facebook. Est-ce que vous trouvez que les échanges sur Facebook sont de meilleure qualité que les échanges à la télévision ?
Y a une différence, on va dire qu'au pire à la télé, ils s'abstiennent de dire des insultes ou de diffamer à outrance, comme on peut l'entendre sur les réseaux sociaux.
– Alors c'est encore pire sur Facebook.
– Ah, sur Facebook, c'est une horreur. Mais la meilleure des choses, elle est la suivante. Il n'y a rien de tel que le contact physique pour se parler. Je vais vous dire honnêtement, ça m'est arrivé au cours de l'année, je préfère avoir un mec, le point levé, à me regarder Rodriguez et pouvoir m'en mettre une dans la tronche, qu'un mec derrière son clavier qui m'en met plein la tronche. Je préfère le gars, physiquement parlant, devant moi, s'il est prêt à discuter avant de m'en mettre une. Parce que là, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Et c'est, d'une, c'est dégueulasse ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux.
Ça revient à la question que je posais à Alexis Corbière. Est-ce que tous les deux, vous ressentez que la vie réelle, IRL, comme on dit sur Internet, c'est-à-dire quand vous rencontrez des gens, vous sur le terrain de votre circonscription ou vous dans les manifs, finalement, c'est moins violent. C'est-à-dire que, comme vous dites, on arrive à se parler et le mec qui vous menace de vous en mettre une, finalement, il ne vous la met pas.
Dans la rue, ça peut être viril, mais ça reste correct, ça reste cordial. Et forcément, l'échange est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus constructif qu'un pauvre gars qui vous balance sur un commentaire une connerie. Moi, j'ai pour habitude que c'est sympa, tu peux venir contester, mais quand tu déposes le singe, laisse au moins les bananes. C'est facile de dire c'est de la merde et derrière, excusez-moi, je vais continuer dans les jeux de mots, de ne pas laisser le papier cul non plus. Parce que qu'est-ce que tu proposes à part insulter? En quoi tu fais avancer le schmilblick? Et de toute façon, les réseaux sociaux, je vais vous dire, j'ai remarqué, elles n'est représentatives que des gens qui vous soutiennent. Vous allez avoir des différences sur des sondages qui soient faits par une personne ou une autre, d'une page à une autre. Elle n'est pas révélateur de ce qui se passe dans la rue et de l'opinion publique globale, physiquement parlant.
Mais pardon, moi, ceci dit, et ce sera peut-être après dans le cours de l'émission, est-ce que c'est vrai, historiquement, que la vie politique aujourd'hui est plus violente que ce qu'elle était il y a quelques années?
Alors,
tout ça, ça se discute, parce que moi, j'ai 51 ans, j'ai pas connu totalement les années 70, mais même au milieu des années 80, je me souviens, quand on collait des affiches, il y avait des militants de droite ou d'extrême droite qui collaient des affiches, je me souviens, j'étais un gamin, ça m'avait marqué, j'avais 19 ans, un gars m'avait montré, il avait une arme sur lui, et il nous avait coursé avec des barres de fer, on se cassait la figure entre colleurs d'affiches. Cette violence-là n'est plus dans le débat politique. Je me souviens, moi aussi, je suis originaire de Béziers, je faisais mes études à Montpellier, quand les viticulteurs se mettaient en grève, de la place de la Comédie à Montpellier, mise à sac par les viticulteurs, et personne, après, le lendemain, n'osait trop poursuivre les viticulteurs, alors qu'aujourd'hui, quand il y a l'alliance de Gilets jaunes, il y a une réponse policière. Mémoire nous permet de dire qu'il y a peut-être des choses qui...
Alors, vous posez une question intéressante, qui est de savoir si, finalement, à la violence traditionnelle de la période à laquelle vous faites allusion, les années 80, qui opposait droite contre gauche, extrême droite contre extrême gauche, n'a pas succédé une autre forme de violence sur des questions qui partagent les camps politiques eux-mêmes, voire les partis politiques eux-mêmes, comme par exemple toutes ces questions d'islam, d'islamophobie et de...
On est rentré dans une violence politique. Mais à défaut, à l'époque, de pouvoir avoir une certaine violence politique, parce que ce genre d'histoire, j'en ai entendu parler de par mon histoire familiale, que des mecs qui se mettaient sur la tronche quand ça collait des affiches, cette violence, elle existait, mais elle était interne entre partis, on va dire. Aujourd'hui,
elle opposait des partis opposés.
Elle n'était pas forcément, elle atteignait pas forcément l'opinion publique. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, la politique, elle atteint directement l'opinion publique. Elle atteint directement le citoyen parce que pour imposer aujourd'hui un programme, un schéma politique qui a été décidé ou pas par des promesses électorales et élu derrière, ça se passe à coup de matraque. Moi, c'est simple. Le LBD aujourd'hui, le LBD 40, c'est une arme de terreur politique. C'est-à-dire qu'on l'utilise pour imposer ses idées si on n'est pas d'accord avec.
Enfin, Corbière, vous direz qu'il y avait déjà des matraques dans les années 80. Je ne suis pas sûr que la matraque soit nouvelle, si vous voulez.
Moi, je pense que ce qui fait peur, mais...
on va en parler. Ça fait c'est un que... an que ça dure. À un moment donné, ça finissait par s'asseoir autour d'une table.
Mathilde.
Il y a eu toujours aussi, historiquement, des violences internes à des groupes politiques politiquement cohérents et qui même au départ pouvaient appartenir à une même organisation, sachant que avant l'ère des partis, l'organisation c'est quand même quelque chose d'assez flou. Les Jacobins, la période de la révolution dévorant ses propres enfants, succession de conflits à l'intérieur du club des Jacobins qui a conduit à l'élimination des Feuillants, puis des Girondins, puis des Évertistes, puis des Indulgents. Donc ça, on peut aussi retrouver dans les querelles, je vais en reparler après de l'affaire Dreyfus. Avant de l'affaire Dreyfus, la querelle entre socialistes et communistes après la séparation du Congrès de Tours, dans le genre niveau de violence, ça se posait là aussi.
Alors, on va revenir sur toutes ces périodes, on va revenir sur les Jacobins, parce que Alexis Corbière vient de consacrer un livre à plusieurs figures révolutionnaires jacobines. Mais alors, d'abord, je voudrais qu'on vienne sur la période de l'affaire Dreyfus, dont on parle beaucoup aujourd'hui à l'occasion de la sortie du film de Polanski. Et ce que tu vas nous raconter, c'est que l'affaire Dreyfus, à la fois, se situe dans le cadre et provoque une recomposition politique en France, ce qu'on sait moins d'ailleurs.
Ouais, alors. Je ne vais pas vous parler du film, parce que moi, je ne sépare pas l'homme de l'artiste, donc je ne suis pas allée voir le film, et je n'irai pas voir le film. D'abord, je voudrais réagir, mais ça va rentrer en résonance, à un article qui est paru dans Le Figaro le 13 novembre dernier, de Guillaume Perrault, à partir du film, mais qui a surtout montré que cette affaire Dreyfus continue de soulever des débats et de réactiver des vieux conflits droite-gauche, mais parfois aussi à l'intérieur de la gauche. Donc, dans cet article, le but de Guillaume Perrault est en fait de charger Jaurès et de réhabiliter Le Figaro. Donc ça commence par beaucoup de Français sont convaincus que Dreyfus fut pendant l'affaire accablé par les conservateurs et sauvé par la gauche. Donc vous aurez compris, il va démontrer que non. Donc ça commence par une très violente charge contre Jaurès, dont on cite des propos antisémites tiré de la dépêche de Toulouse le 26 décembre 1894 et que vous voyez donc s'afficher. Donc on peut cliquer, mettre pause si on veut les lire, mais c'est une phrase effectivement antisémite de Jaurès.
Alors je vais quand même la lire. On a surpris un prodigieux déploiement de la puissance juive pour sauver l'un des siens. Et c'est signé Jaurès.
Voilà, le 26 décembre 1894. À l'inverse, Guillaume Perrault veut montrer qu'en 94, Le Figaro s'était, lui, distingué, comme il le dit, en envisageant l'hypothèse de l'innocence, qu'il avait ouvert ses colonnes à Émile Zola, et que d'ailleurs un des grands textes, premier texte de Zola avant J'accuse, qui se termine par le fameux « La vérité est en marche et plus rien ne l'arrêtera », a été publié dans les colonnes du Figaro. Alors tout de suite, Guillaume Perrault recommence, nouvelle charge contre Jaurès, il n'en avait pas fait assez, et donc il recommence avec une autre citation antisémite de Jaurès, donc l'accuse d'être vendu à un syndicat Dreyfus, et il recite de la Petite République, donc je vais le lire si vous voulez, « Ce n'est pas que l'existence et l'action de ce syndicat soient contestables, je défie qu'on m'explique autrement l'attitude du Figaro et la campagne systématique sous couleur d'impartialité, il mène pour Dreyfus, donc Jaurès contre Le Figaro. » Et il continue, hein, voilà, que Dreyfus soit juif ou chrétien, il m'importe peu, si l'odeur du ghetto est souvent nauséabonde, dit Jaurès, le parfum de Rastaquer catholique des Esterhazy aussi écœurer les passants. Donc voilà, son truc, c'est vraiment de montrer que Jaurès a été antisémite et que Le Figaro, au contraire, était Dreyfusard.
Et la fin, c'est faux tout ça ?
Attends, parce que la fin est collector, vu qu'il il demande, voilà, on le voit, au lendemain du suicide du colonel Henri, Le Figaro renoue avec son Dreyfusiste, trop tard, après avoir pris beaucoup de risques, il s'est laissé faire les poches, c'est l'histoire de la droite, comme si la droite s'était fait voler le Dreyfusisme, ce qui est quand même assez fort. Pour répondre à la question, non, c'est pas faux, c'est-à-dire qu'effectivement les citations sont attestées, il serait pas amusé à créer une citation de Jaurès. Et il est vrai aussi que Le Figaro ait au début ouvert ses colonnes au soutien de Dreyfus, et notamment à Zola, tout ça est juste. Il est vrai aussi que Le Figaro a ensuite abandonné ce soutien dans l'affaire, au cœur de l'affaire à partir de 98, puis est revenu, même s'il exagère en disant qu'il est redevenu Dreyfusard ou Dreyfusiste. Ce qu'on disait à l'époque, c'est que Le Figaro était un journal épongiste. Alors c'est un terme qui a disparu, mais un terme qui était très présent à l'époque. Ça vient d'une citation de l'historien Ernest Laviste qui, en pleine affaire Dreyfus, appelait à passer l'éponge, qu'on oublie un petit peu. Et donc tous ces journaux qui, sans soutenir Dreyfus, le dreyfusisme, et sans être non plus anti-Dreyfusard, en gros appelaient au calme. Et ils étaient d'ailleurs accusés par Clémenceau et par d'autres Dreyfusards de la première heure. Ils disaient il ne faut pas jeter l'éponge, il faut une véritable victoire, victoire de la vérité, de la justice, la réhabilitation du capitaine, et pas une victoire par habileté de procédure. Donc, le problème de l'article de Guillaume Perrault, c'est pas que ce qu'il dit est faux, c'est que ce qu'il dit est tronqué. Et ce qu'il dit, en fait, il n'écrit jamais, noir sur blanc, supposant peut-être que les gens le sachent, mais c'est pas inutile de le rappeler, que Jaurès a ensuite radicalement changé de position. Et que ce changement définitif de Jaurès puis du camp socialiste est très important, et dans l'histoire du socialisme, et dans l'histoire de la gauche, et dans l'histoire de la République. Qu'est-ce que disent les historiens ? Oui, Jaurès a eu des propos antisémites. Oui, le mouvement ouvrier à cette époque pouvait verser dans un antisémitisme que les historiens qualifient en général d'anticapitaliste, qui est en fait une réactualisation de l'antijudaïsme qui voyait dans le juif la figure de l'usurier et qui la réactualise dans le contexte de l'antisémitisme autour de la figure de Rothschild. Il ne s'agit pas de le taire, c'est quelque chose que les historiens ont travaillé, documenté, sur lequel ils réfléchissent. En revanche, ce qu'il faut insister, les historiens et les historiennes y insistent tout le temps, c'est qu'il est complètement malhonnête de ne pas dire que la gauche, le mouvement ouvrier, le socialiste ont, au moment de l'affaire Dreyfus, absolument changé, que non seulement ils ont abandonné leur antisémitisme, mais qu'ils ont fait de l'antisémitisme un des chevals de bataille du socialisme et de la gauche, et bientôt de la République, et que c'est un changement majeur dans notre histoire.
Là, je repose ma question, qu'est-ce qui les fait changer ?
Alors, je vais expliquer. D'abord, il faut revenir un tout petit peu à l'affaire Dreyfus et comprendre qu'une des particularités de l'affaire Dreyfus, c'est qu'elle a divisé au cœur de toutes les familles politiques, au cœur de tous les groupes sociaux, au cœur de toutes les rédactions de journaux, bon, exception faite des journaux purement antisémites, genre La Libre Parole ou La Croix, qui à l'époque avait comme sous-titre le journal le plus antisémite de France. Ça pose quand même un petit peu le journal. Et les familles, avec ce fameux dessin que vous avez dû voir de Carandache, qui est un anti-Dreyfusard, hein, en février 98, ils en ont parlé. Donc voilà, au début, la famille s'entend bien. Et puis après, ça se passe beaucoup moins bien parce qu'ils ont parlé de l'affaire Dreyfus. On pourra noter qu'il y a eu des actualisations des mèmes de ce fameux dessin à Noël dernier, au moment des Gilets jaunes. On va le voir là, voilà. Donc Noël 2018, ils sont tout prêts à s'entendre. Et puis, ah, vive la police, il fallait voter fille. Voilà, avec le cousin qui sort son gilet jaune. Donc on voit qu'on est, on est dans ce cadre de conflits qui divisent à l'intérieur et qui divisent de façon fratricide, occasionnant des violences particulières parce que quand son propre camp, on a l'impression que son propre camp se divise, on l'accuse de traîtrise, ce qui n'est pas forcément la même chose dans les autres divisions. Il faut voir que la société de la fin du 19e siècle est imprégnée d'antisémitisme. Et donc, oui, le mouvement ouvrier l'est tout autant, peut-être moins d'ailleurs que les autres, mais l'est également. Ajoutons à ça que Dreyfus est un officier et qu'à ce moment-là, le mouvement ouvrier et le socialisme sont profondément antimilitaristes, ce qui s'explique entre autres parce que l'armée tire sur les grévistes dans un moment de réveil important du mouvement social.
Enfin, cela dit, l'armée, elle est contre Dreyfus.
Oui,
mais donc voilà, c'est pas
oui, forcément. Oui, mais mais ça explique, c'est-à-dire que si Jaurès critique et ne soutient pas, Jaurès, Guède, etc., ne soutiennent pas Dreyfus, c'est parce que c'est un officier et qu'on ne va pas soutenir un officier, sachant que les officiers. Et que par ailleurs, même Jaurès va dire il n'est pas normal qu'il soit juste dégradé et emprisonné quand les ouvriers, quand ils passent en justice, ils sont condamnés à mort. Donc deux poids, deux mesures. Donc c'est le contexte.
Si tu permets, tu vas peut-être le dire, mais il y a un débat très fort au sein du mouvement social. Parce que des ouvriers ayant refusé de saluer des ouvriers servant sous l'uniforme ont refusé de saluer des officiers et passent en procès et vont peut-être même être condamnés à mort. Et c'est voilà. Tout le débat de certains qui disent mais pourquoi nous devons mener campagne pour nos camarades soldats qui risquent leur vie parce qu'ils ont refusé de saluer un officier et vous nous demandez de défendre un officier entre officiers. Donc c'est
donc
je te laisse continuer,
mais
il faut recontextualiser pourquoi des gens comme Jaurès ou Lucien R, tous ceux qui arrivent là-dedans, apparaissent vis-à-vis des socialistes comme étant un peu... il faut parler d'abord des camarades et pas des bourgeois et des contradictions de la bourgeoisie.
Il y a une ce qui est très important dans la plupart des discours de Jaurès, c'est l'idée de la hiérarchie des luttes. Et la première hiérarchie à mener est la lutte du mouvement ouvrier et, par ailleurs, résultat du mouvement ouvrier contre l'armée. Alors, il faut savoir qu'au début... Là, ce qu'on va appeler la République, c'est-à-dire en fait les républicains opportunistes au pouvoir, en gros des républicains libéraux, ils ne sont pas du tout Dreyfusards. Je veux dire, la République est responsable de ce refus à la révision du procès, enterre les preuves, fait passer l'honneur de l'armée et l'autorité de la chose jugée avant la vérité et la justice pour Dreyfus. Ce qui fait qu'en gros, jusqu'à 1998, ce qu'on appelle les Dreyfusards, c'est-à-dire ceux qui soutiennent Dreyfus et son innocence et qui se battent pour son innocence, c'est un tout petit milieu. Qui transcendent donc les partis politiques, c'est des personnalités plus que véritablement un groupe. Donc il y a Zola, Bernard Lazare, alors je prononce sûrement mal, mais Scherer, Kessner, Clémenceau, Lucien R, Léon Blum, Gabriel Monod, Charles Péguy, etc. Je vais m'arrêter là. Tout change en 98. Ça change en 98 parce qu'il apparaît très clairement qu'il est innocent. Et donc la question va changer de dimension. Et donc on passe du ce qu'on appelle les Dreyfusards, ceux qui soutiennent Dreyfus, au Dreyfusisme, c'est-à-dire ceux qui, au-delà de Dreyfus, soutiennent la défense de la vérité contre l'autorité de la chose jugée, la défense des droits de l'individu contre la raison d'État, et qui vont faire du refus de l'antisémitisme aussi une des valeurs fondamentales. C'est ce que les historiens appellent l'insurrection des consciences, et elle est très importante. Et c'est dans ce contexte que Jaurès change d'avis. Il n'est pas le premier à le faire, mais il est le premier socialiste à le faire, en revanche. Ça, c'est net. Et il va entraîner derrière lui un grand nombre de socialistes et d'intellectuels. Il reconnaît ses erreurs et il appelle à défendre Dreyfus au nom de ce qu'il appelle finalement l'humanité de Dreyfus. Donc c'est tous ces articles qu'il fait dans La Petite République en 98 sont rassemblés dans un livre très important qui s'appelle L'Épreuve et dont on retient en général cette phrase, puisque tant qu'à citer des phrases de Jaurès, autant citer aussi aussi ces belles phrases. Voilà, je ne pourrais répondre que si Dreyfus a été légalement condamné, si en effet, comme je le démontrerai bientôt, il est innocent. Il est dépouillé par l'excès même du malheur de tout caractère de classe. Il n'est plus que l'humanité elle-même, au plus haut degré de misère et de désespoir que se puisse imaginer. Donc Jaurès change de camp et va rallier derrière lui une grande partie des socialistes. Et à partir de là, deux camps se dessinent et redessinent profondément le paysage politique. Il y a les Dreyfusistes d'un côté, les anti-Dreyfusistes de l'autre. Avec un grand moment de violence. On est bien content qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à cette époque. Enfin, eux, ils sont bien contents. Les Dreyfusistes ne sont pas tous de gauche, mais majoritairement, très majoritairement. Et les anti-Dreyfusistes ne sont pas tous de droite, mais très majoritairement. Parce que malgré tout, l'anti-Dreyfusisme et l'attaque contre Dreyfus, ça assemble des forces politiques, idéologiques, conservatrices, qui avaient parti lié avec l'Église catholique d'alors, profondément anti-républicaine et profondément antisémite et militariste, l'alliance du sabre et du goupillon. Or, cet engagement de Jaurès, et donc après des socialistes, dans le camp dreyfusiste, va avoir des conséquences politiques majeures dans notre histoire. Parce que pour ce faire, Jaurès va s'allier avec des républicains radicaux. Ils vont former, d'abord à la Chambre, puis lors des élections de 1999, une alliance qui s'appelle la Défense républicaine. Et cette alliance, radicaux et socialistes, l'emporte aux élections de 1999 et pousse donc vers la sortie les républicains libéraux, les orléanistes. Et c'est un changement majeur. D'abord, c'est un changement pour Jaurès, puisque révision, grâce, réhabilitation, panthéonisation de Zola, etc. Mais c'est un changement majeur pour la République, parce que c'en est fini de la République libérale. Arrive une République dite radicale, qui va, sous l'influence des socialistes, prendre des mesures sociales. Ces mesures sociales, c'est la loi sur les accidents du travail, le congé maternité, la loi sur les retraites dont je parlais une autre fois. Donc tous les droits absents depuis février 1948, y revient. C'est une république qui va condamner l'antisémitisme. Et ça, c'est une nouveauté très importante. Ça devient les droits de l'homme, désormais, c'est la lutte contre le racisme. La Ligue se fonde à ce moment-là. Et par ailleurs, c'est le début de la politique de séparation de l'Église et de l'État, etc. Donc le modèle républicain est profondément régénéré par l'affaire Dreyfus du fait de cette recomposition.
Alors, quand on voyait le dessin que tu montrais tout à l'heure, le fameux dessin, ils en ont parlé, le dessin de Carandache, là, où on voit qu'effectivement, l'affaire Dreyfus déchire et saccage, y compris les familles entières, on ne peut pas ne pas penser aujourd'hui, Laura, à toutes les questions autour de l'islam, de l'islamisme, et notamment du voile. Alors, est-ce que vous pourriez déjà, avant qu'on se demande si le voile et l'affaire Dreyfus d'aujourd'hui, nous situer les camps en présence à gauche ?
Oui, c'est vrai que c'est une des questions qui travaille la gauche aujourd'hui, qui provoque des débats houleux, y compris au sein de la France insoumise. On a eu l'exemple récemment avec le philosophe Henri Peignard-Ruiz, qui a longtemps été un compagnon de route de Mélenchon et qui a déclenché un tollé à l'université de la France insoumise en réaffirmant son droit à être islamophobe. Alors bien sûr, c'était dans le sens très strict de critiquer non pas les musulmans, mais l'islam, mais quand même. Donc pour résumer, je dirais qu'il y a trois positions sur ce sujet. On a, disons, l'aile droite, une gauche laïcarde, républicaine, universaliste, qui, disons-le, est obsédée par l'islam, par le voile. Ce sont par exemple les membres du printemps républicain, souvent d'ailleurs des socialistes ou des ex-socialistes.
Moi, je suis laïcard, universaliste et républicain.
Oui, je voulais
obsédé par l'islam.
Mais je ne parlais pas de vous dans cette catégorie.
Non, mais je leur donnais des adjectifs plutôt positifs à mes yeux.
Oui, oui, oui. Mais bon. Mais oui, je vais mettre plein d'étiquettes comme ça sur tout le monde. donc ça, c'était donc l'exemple que je pensais plutôt au printemps républicain, des gens comme Laurent Bouvet, qui défend théoriquement donc la laïcité contre le communautarisme, mais qui a quand même un vrai problème avec l'islam et qui ne supporte absolument pas le terme même d'islamophobie. Plus à gauche,
et qui
on
est
a
terrible sur les réseaux sociaux.
Oui. Sur Twitter, Laurent Bouvet, oui, faut plus le suivre. On va en reparler, mais une grande partie de la France insoumise, je dirais, même si, comme je disais, ça fait débat, mais c'est une gauche qui, traditionnellement, se méfie de la religion, mais de toutes les religions, qui se désole de constater un retour du fait religieux, de la pratique religieuse en France, dans le monde. Si on prend quelqu'un comme François Ruffin, par exemple, il dit bien qu'il ne veut absolument pas empêcher les mères voilées d'accompagner les sorties scolaires. Mais pour cette gauche, les polémiques autour du voile et de l'islam en général détournent des vrais sujets qui importent de la question sociale, du démantèlement de l'État social qui affecte tout le monde, tous les travailleurs, y compris les musulmans. Et enfin, troisième courant, je dirais en face de ça, on a les militants de l'antiracisme politique qui considèrent que les attaques contre les femmes voilées ne sont pas juste une tactique pour divertir l'attention pendant qu'on fait baisser les pensions de retraite ou les allocations chômage, que elles sont le reflet d'un racisme profondément ancré dans la société française, hérité de l'histoire coloniale qui n'a pas été soldée. Et pour ces militants, il ne suffit pas d'être anticapitaliste. Il faut associer ces luttes à une perspective décoloniale. Et ils considèrent que la gauche blanche néglige encore trop ces questions. Par exemple, quand François Ruffin dit qu'il ne va pas à la marche contre l'islamophobie parce qu'il la fout, c'est pour eux voilà, un mauvais signe. Alors, pour vous donner une idée des débats, on va écouter Amine El Khatmi, l'actuel président du Printemps républicain, qui s'exprimait le 10 novembre sur BFM après la marche contre l'islamophobie.
L'islamophobie, c'est un principe qui a été imposé dans le débat public par les islamistes et qui signifie l'interdiction de critiquer une religion. Nous étions d'accord, nous, à gauche, sur ce principe. Et même M. Mélenchon, qui aujourd'hui semble avoir changé d'avis, il n'y a pas si longtemps que cela, dans des tweets, dans des tribunes, expliquait avec le talent d'écriture et le talent oratoire qui est le sien, à quel point ce piège était un piège tendu par des islamistes et qu'il ne fallait surtout pas que nous tombions dedans. Il avait d'ailleurs prononcé l'oraison funèbre de Charbes. Il était un ami de Charlie. Donc, que la gauche, qui était Charlie, qui était dans les rues du pays le 11 janvier 2015, en soit réduite, 4 ans plus tard, bientôt 5 ans plus tard, à défiler, parce qu'on parlera, on parle du mot islamophobie qui est le mot d'ordre, mais on parlera aussi de ceux qui ont appelé à manifester, que vous en soyez 5 ans plus tard réduit à manifester contre la critique d'une religion, c'est une défaite au mieux, une trahison au pire. Et je crois que ce soir, qu'il y a beaucoup de Français de gauche qui sont très tristes de voir dans quelle évolution nous sommes arrivés.
Alors, moi, en tant qu'islamo-gauchiste, j'étais plutôt, au contraire, soulagée, heureuse de voir Mélenchon, de vous voir, vous, dans la manifestation. Je me suis dit, ah, est-ce que ça bouge à la France insoumise ?
Non, ça ne bouge pas. Compris le fait que vous disiez ça, participe à la confusion.
C'est une question.
Non, mais...
C'est une question. Vous êtes là pour dissiper la confusion.
Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, j'étais en train de le faire, cher Daniel Schneiderman. Mais comme l'entrée, l'angle était volontairement... Non, mais je ne vous le reproche pas. On n'a pas changé. Laïque, indiscutablement, je suis laïque. C'est-à-dire, qu'est-ce que la laïcité ? Ça garantit la liberté de conscience, donc la liberté de culte. Donc la possibilité, dans le même pays, que nous ayons tous des convictions spirituelles différentes, mais que nous puissions vivre ensemble. Mathilde Larrière l'a rappelé, c'était pas acquis. À un moment donné, dans ce pays, être protestant a occasionné des guerres pendant longtemps. Être juif était considéré comme étant dans une situation de marginalité, etc. etc. Bon. Et on évoquait Jaurès, c'est aussi le penseur qui permet que le socialisme se réconcilie avec la République. Grand débat dans le mouvement socialiste. Entre Guède qui dit « votre histoire de République, c'est du baratin » et Jaurès qui dit « dans cette histoire-là... » Non, alors, non mais on en revient parce que dans ces principes-là, à partir du moment où moi je défendrai toujours ceux qui défendent la laïcité. S'il y a des obscurantistes musulmans qui remettent en cause les droits de l'homme, qui ont des propos de haine, ils doivent être sanctionnés, bien évidemment, mais aussi d'autres confessions. Là, dans ce débat, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un homme d'extrême droite qui a organisé un attentat contre un lieu de culte, il a voulu mettre le feu à une mosquée, il a tiré au fusil sur 2 personnes, d'accord ? C'était pas les frères Kouachi sur qui il a tiré. C'est 2 braves personnes qui n'ont jamais embêté qui que ce soit. Donc il me semble être l'honneur de la République dans un contexte au moment donné où on voit bien comment certains ne cessent de mettre de l'islam au cœur de tous les débats, de dire, quel que soit après ce qu'on pense du fait qu'à titre personnel, moi je ne suis pas croyant et je pense que je suis pour l'être humain sans étiquette, mais c'est ma question à moi, et peut-être vous êtes croyante, je m'en fiche, on doit vivre ensemble. Mais quand un lieu de culte est attaqué, quel qu'il soit, on doit tous réagir. On le fait en général quand il y a un acte antisémite. On s'est tous rassemblés quand un fou a mis une croix gammée sur une boîte postale où il y avait le portrait de Simone Veil. Et là, d'un seul coup, tout devient compliqué. Tout devient compliqué. Moi, j'avoue que dans l'appel qui nous a amené à manifester, si on avait eu le temps, là-dessus, on a été un peu négligent, j'aurais enlevé la phrase « les lois liberticides » parce qu'elles ont prêté à une ambiguïté, selon les organisateurs, d'ailleurs, ils ne disaient pas tous la même chose. Pour moi, 2004, la loi qui dit aux jeunes « pas de signe religieux dans l'école » n'est pas liberticide. J'ai été prof de lycée pro pendant 22 ans. Franchement, c'est très bien qu'on puisse, dans le cadre de l'école, dire aux enfants « vous avez vos convictions, mais ici, on ne les affiche pas en classe, symboliquement. » Ça, c'est bien. Bon. Mais à part ça, le fait de dire... quand on met au cœur de tous les débats les musulmans comme étant la source des problèmes. Y compris même moi qui suis un vrai laïc, La laïcité, il y a peut-être des musulmans qui la remettent en cause, mais aussi, il y a l'Église catholique qui bénéficie de financements publics dont on ne parle pas. Il y a quand même deux départements.
Non, mais c'est le cœur du sujet. Sans rentrer dans le fond du sujet.
Non, mais c'est le fond. C'est-à-dire que ce
débat s'est tenu largement sur toutes les chaînes.
Hormis chez vous, on n'a pas le temps de.
Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est les mots de ce débat, si vous voulez. On a entendu la.
Alors, je vais lui répondre sur l'islamophobie, par exemple.
L'intervention. Je pense à un autre mot, l'intervention du président du printemps républicain, là, qui parle de trahison. C'est des mots quand même très forts.
Je vais utiliser un mot philosophique, c'est un salaud. Je vais le dire philosophiquement par rapport à ça. Dire ça, c'est un salaud. Évoquer la mémoire de Charb, d'accord, de Georges Wolinski, de Cabu, qui par ailleurs étaient des amis de Jean-Luc Mélenchon, convoquer les morts, pour oser dire que nous, quelque chose, nous cracherions sur la tombe de ces gens-là, je dis ce monsieur est un salaud. C'est-à-dire qu'il utilise des arguments déloyaux, sales, pour dire autre chose. Jean-Luc Mélenchon a toujours les mêmes convictions, moi-même aussi. Je ne suis pas d'accord, évidemment, et personne ne se voit cette table.
Alexis Corbière, trahison, salaud, oui. Dégueulasse, oui. Dégueulasse. C'est très violent, et oui. On est au cœur du sujet de l'émission. Oui. Est-ce que ces mots viendraient de la même manière dans un débat sur les retraites ou sur le démantèlement de l'assurance chômage? Ma question est, qu'est-ce qui explique que certains débats débouchent immédiatement sur des insultes réciproques, sur des dégueulasses, salauds, etc.
Là, vous avez. Oui, parce que moi, je trouve qu'y compris, il y en a quand même quelques-uns qui sont morts que je connaissais personnellement. Moi, il m'est arrivé dans ma vie d'avoir des problèmes. Écharb avait écrit pour moi, fait des dessins pour moi, et Georges Wolinski, etc. Donc, je m'excuse, mais on ne convoque pas les morts, surtout qu'on les connaissait beaucoup mieux que ces gens-là. Et bon, bref, donc c'est pour ça que ça me touche.
Mais il y a des morts partout.
Non, mais j'entends bien, mais moi, je ne vais pas chercher les cadavres.
Il y a aussi des gens qui sont morts parce qu'ils ont pris leur retraite trop tard et qui sont morts immédiatement après le.
Non, mais vous avez raison. Là, je me permettais de mettre une certaine intensité dans la réponse parce que, comme sur les réseaux sociaux, j'en ai mangé beaucoup, je me permets vis-à-vis de ce monsieur qui, par ailleurs, n'existe que pour venir faire en permanence des provocations systématiques, ça devient un peu pesant. Alors que là où vous avez raison, d'un certain point de vue, de me corriger, c'est qu'il faut trouver des mots de fraternité à l'heure actuelle. Parce que ce pays peut se casser sur ces questions de religion. L'histoire nous montre que c'est un grand spécialiste, la France, pour se casser là-dessus, et qu'on doit essayer de l'éviter. Et il m'a semblé que notre présence, même de la part, on va dire, d'un laïc dur comme Mélenchon, mais devenir le 10 pour dire, bon sang, moi, vous connaissez mes positions sur beaucoup de sujets, mais on ne touche pas au lieu de culte, on ne tire pas sur les musulmans. Bon, ça, je pense que ça a fait du bien à beaucoup de gens, qui après se sont dit, Corbière, Mélenchon, sur plein d'autres trucs, on est peut-être en désaccord, mais au moins là-dessus, eux, ils sont là. Parce que, après, je termine. Moi, j'ai vu Mme Buzyn, vu que vous me parlez sur les retraites. Quand je la vois l'autre jour sur une émission, je ne sais plus ce que c'était, une matinale, dire que ceux qui vont manifester le 5 décembre sont des gens très égoïstes, etc. Je ne vais pas réutiliser l'adjectif que j'ai dit tout à l'heure vis-à-vis de ce monsieur, mais ça situe sur le terrain quand même de montrer, de vouloir diviser les salariés entre eux, de vouloir diviser les milieux populaires entre eux, alors qu'ils manifestent contre une réforme des retraites qui est particulièrement déloyale et très violente.
Voilà, mais en même temps, votre vocabulaire est beaucoup plus modéré quand il s'agit, Mme Buzyn, des retraites et du chômage que quand il s'agit de l'islam.
Daniel, s'est permis d'évoquer les morts. Et ça, je trouve que ça se fait pas. Voilà. C'est uniquement pour la raison pour laquelle, s'il m'écoute, je me permets de lever d'un niveau. C'est que, comme y compris en journaliste, que j'aime beaucoup, jusque-là, dans Marianne, je pense à Guy Konopnicki, là aussi, s'il m'écoute, c'est en permis de dire que Jean-Luc Mélenchon et moi-même, on a trahi la mémoire de Charb. Moi, je trouve que ces arguments, ça ne se fait pas. Ça n'est pas loyal. Vous critiquez-nous sur la présence du 10, mais n'utilisez pas le fait qu'on serait, soi-disant, aujourd'hui, en train de cracher sur... je le dis avec passion, merde, il y a des choses qui se font pas, je le crois.
La différence, c'est qu'il y a des morts. En fait, ce qui fait la ligne entre les sujets qui électrisent et les sujets sur lesquels on peut débattre avec des arguments, c'est qu'il y a des morts.
Oui, puis que c'est là, c'est pas seulement ça, c'est aussi que sous-entendre que nous serions d'une certaine complaisance aujourd'hui avec les assassins, sous-entendre que les organisateurs de la manif, même si certains sont critiquables, moi je suis pas du tout d'accord avec le collectif de lutte contre l'islamophobie, mais ils ne sont pas des assassins, c'est pas des... Je veux dire, au bout, on peut avoir un peu de rationalité, on peut faire la distinction entre les frères Kouachi, et c'est ça qui est dingue. Quand c'est les musulmans, on est plus rationnel. Et ça, c'est un vieil imaginaire aussi colonial. Moi, je suis pas un anticolonialiste. Si, je suis anticolonialiste, mais je suis pas un décolonial par rapport à la catégorie. C'est intéressant. Mais c'est vrai que notre imaginaire politique est marqué par un certain imaginaire colonial. Le noir, il est fort, il danse, mais il est un peu bête. L'arabe, il est fourbe, il dit pas toujours ce qu'il pense. Et aussi l'asiatique. Et c'est toujours ça. C'est-à-dire que les musulmans, ils disent des choses, mais ils le pensent pas vraiment. Ils ont autre chose derrière la tête. Et ça, c'est insupportable. Ouais. Insupportable.
Quand c'est les musulmans, on est plus rationnel. Je retiens cette phrase.
Non, mais vous voyez ce que j'ai. Toujours, on leur dit, ils ont dit ça, mais derrière tel mot, il y a autre chose. Non, prenons-les comme ils sont. Il y a des gens avec lesquels je ne suis pas d'accord, mais il y a des gens qui écrivent. Il y a même des gens qui évoluent, par ailleurs, qui évoluent. Moi, j'en connais certains, ils évoluent. Je termine pour ne pas être trop long, mais sur la manif des lois liberticides, j'observe que certains de leurs porte-parole ont dit au début qu'ils mettaient dans le paquet la loi de 2004, et 15 jours après la manif, ils ont dit non, qu'ils ne la mettaient plus dedans. Bon, je ne crois pas que c'est que de la fourberie, c'est aussi des gens qui voient comment les choses évoluent et qui ont un discours qui lui aussi est sensible à tout ça.
Pardon. Mathilde ?
Non, mais les noms d'oiseaux, on les retrouve aussi dans les conflits sociaux et politiques. Il suffit de voir comment, avec quels mots sont traités les gilets jaunes dans la plupart des émissions, etc. Salaud, c'est très souvent, hein, salaud de gilets jaunes, etc. Enfin, la présence de l'injure, soit en politique entre différentes personnes, soit médiatique contre... Elle est présente, elle n'est pas propre à... Alors, qu'il se passe quelque chose de particulier autour de cette question du voile, pour moi, ce n'est pas une question de laïcité. Hein. Pour moi, c'est juste une question d'antiracisme et de racisme. Mais,
Jérôme Rodriguez, la violence comparée des débats concernant le voile et concernant les gilets jaunes, vous trouvez qu'il y a des débats qui suscitent davantage de violence que l'autre, des insultes plus violentes ?
Il est clair que sur des débats politiques, je dirais, qui concernent un petit peu l'opinion publique et l'ensemble de la population, c'est beaucoup plus cordial que ce qu'on a pu voir aujourd'hui sur l'islamophobie. Et c'est regrettable parce qu'à chaque fois, au final, on est toujours sur le même concept de l'amalgame, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, nous, les gilets jaunes, c'est ce que vivent aussi la police, parce que, voilà, les gilets jaunes, on est tous des mauvais, puis les flics sont tous des mauvais, mais non, il y a des gens qui sont très bien, que ce soit de n'importe quel camp, la seule chose à faire, c'est de discuter les uns avec les autres et s'apercevoir que la plupart, c'est des gens qui sont très bien. Je ne sais plus, hier, j'ai regardé, je suis pas fan, mais je suis tombé sur l'émission d'Hanouna, où il y a un petit jeune de la cité de Mantes-la-Jolie qui se lève et qui prend l'expression que dans un sac de patates, quand il y en a une qui est pourrie, tout est pourri, en parlant de la police. Et je crois que c'est Karim Zeribi qui le reprend et qui dit « mais la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire dans une cité, dans un quartier, que cette patate pourrit l'ensemble ». Ça a fait réfléchir le jeune, ça m'a fait réfléchir moi aussi, et c'est pas faux. C'est qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a un con dans une catégorie de personnes que l'ensemble sont des cons. Parce qu'à ce moment-là, moi, je viens de la banlieue, jamais je réussis à rien, parce que je suis pourri de naissance, parce que je suis né en banlieue. C'est faux. Il y a des gens très bien, il y a des gens qui réussissent, sauf qu'aujourd'hui, les médias préfèrent parler de violence, préfèrent parler d'amalgame, que de mettre l'accent sur des choses positives, de parler de positif. On ne parle que de négatif à la télé. De toute façon, il n'y a que la violence qui fait vendre. Il n'y a que le bon mot bien violent qui va arracher, qui va faire mal, qui va polémiquer, qui va faire que tout le monde peut s'enflammer sur la toile ou sur les différentes chaînes médiatiques. Qui font vendre. Parce qu'au final, moi, je vais vous dire, à titre personnel, on ne m'a invité sur les plateaux que pour parler de violence.
C'est encore le cas aujourd'hui, d'ailleurs.
Dans l'absolu.
Mais on essaye d'en parler calmement.
On peut très bien parler de violence à partir du moment où c'est construit, qu'on a tous les tenants et les aboutissants, non pas que des espèces de simili consultants, experts en politologie ou en flicaillerie, nous dire qu'on est tous des barbares et qu'ils ne savent pas ce qui se passe réellement.
Vous êtes d'une sagesse incroyable.
Mais lui, c'est un sage.
Mais ce n'est pas une question de sagesse. Si. Ce qui me dérange aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'il y a des gens qui se permettent de parler et qui ne savent pas. Aujourd'hui, je suis un des gars, avec tant d'autres, qui marchent dans la rue, qui discutent avec les gens, quel qu'il soit, j'ai fait des blablacars qui ont fait des Paris-Bordeaux, c'est 6 heures de route, avec deux employés de banque et un entrepreneur. Je vous garantis que les mecs, ils ne m'ont pas pris pour un barbare. On a discuté cordialement, on a avancé nos idées, et on s'est serré la main, bonne route à vous, et tout va bien. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à faire ça, parce qu'on est juste capable de se mettre des pains dans la tronche parce que ça fait vendre à la télé.
Alors, je voudrais qu'on vienne maintenant à la Révolution et aux Jacobins.
Je vais vous faire un reproche avant, parce que ça fait plusieurs fois, comme je vous lis, et j'aime beaucoup ce que vous faites, vous avez plusieurs fois critiqué l'émission d'Hanouna dont tu parles, y compris Raquel Garrido, dont vous connaissez des liens. Mais ce que vous dites, Jean Mondelez...
Des liens avec vous, plus.
Des liens avec moi.
Voilà.
Mais écoutez,
c'est votre femme.
Mais c'est mon épouse. Écoutez ce que dit Jérôme Rodriguez. Le paradoxe, c'est que même si on peut critiquer Hanouna, c'est un des seuls aujourd'hui, dans le paysage audiovisuel français, a organisé un débat, quand il y a eu le débat sur le foulard, a fait venir une dame qui portait le foulard, a fait venir une contradictrice et a donné la parole. C'est un des seuls aujourd'hui à mettre un policier face à... Non, ce que je veux dire, c'est que ça peut vous sembler une régression, tout ça. Mais n'empêche que ça donne, ça en dit long sur le service public audiovisuel qui parfois ne crée pas ce genre de cadre. Et je vous invite peut-être aussi à avoir des mots moins violents, vu que vous me reprochez à juste raison d'avoir utilisé tout à l'heure. Vous aussi, vous avez parfois des mots violents vis-à-vis de gens qui sont dans tout ça. Donc chacun participe à l'ambiance générale.
Je crois que je n'ai jamais traité personne de salaud.
Mais d'agent de Bolloré, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de traiter des gens.
Alors je crois qu'on va plus se fâcher sur Hanouna et Raquel Garrido que sur le voile.
Au contraire, on se réconcilie là-dessus.
Le voile, ça suffit. J'ai 40 ans. Depuis que je suis au collège, j'entends parler de cette histoire de voile. Moi, le voile, c'est simple. C'est la maman de mon copain à la cité de confession musulmane qui partait faire son marché et qui mettait son fichu, parce qu'on appelait ça un fichu quand j'étais gamin, sur la tête. Et ma grand-mère au Portugal, qui est chrétienne, et qui partait au marché et qui mettait le même fichu sur sa tête.
Non mais Jérôme, on a le droit aussi de considérer que les religions qui demandent aux femmes de s'habiller d'une certaine façon, on a le droit de ne pas approuver ça. Moi j'observe que toujours les femmes, les Lubavitch, il faut qu'elles se rasent le crâne, etc. Ça on a le droit de le critiquer.
Ne pas faire l'amalgame, je veux dire, à un moment donné. Voilà, laissons les gens libres de faire ce qu'ils ont à faire, discutons-en si ça dérange, mais arrêtons de s'insulter par rapport à ça, parce que c'est, l'insulte n'est pas constructive, et je le vis tous les jours aujourd'hui au sein du mouvement des Gilets jaunes, que dès que ça part en insulte, on ne construit pas. Dès que ça part en violence, on ne construit pas. C'est regrettable. Et aujourd'hui, la violence médiatique, elle vient aussi d'un truc. C'est que tu remarques sur un plateau de télé, tu as un journaliste, que j'appelle un passe-plat, qui est là avec des consultants qui sont à même de donner leur avis. Mais ça ne va que dans un sens. Il n'y a jamais des fois des contradicteurs beaucoup plus massifs que certains autres pour pouvoir contredire. L'autre jour, je suis chez moi, je vois un débat sur les violences policières chez Pascal Pro. Il n'y a pas un mec, à part Rioful qui est là, qui lui établit une certaine balance, et je tiens à le faire remarquer, il
n'y
a pas un contradicteur. Je prends mon portable, j'envoie des SMS à Pascal Pro, oui j'ai le numéro parce que j'ai eu affaire à lui, pour contredire et donner mon avis, parce qu'il n'y a pas un mec au pire victime ou qui connaît le dossier pour donner de la voix. Mais il a été sympa, il l'a lu.
Ah, il vous a pris antenne. Non,
il a pris mes SMS, il a dit Jérôme écrit les SMS, donc je faisais référence que les deux cas qui passaient en correctionnel, c'était de la poudre aux yeux face aux 54 cas qui avaient été annoncés le matin, parce que le schéma, il était clair. Hein. Le matin, on annonce 54 cas classés sans suite, et l'après-midi, deux cas en correctionnel. Génial. Voilà, comment mettre de la poudre aux yeux et oublier qu'il y a 54 personnes aujourd'hui qui ne pourront pas être dédommagées par la justice et 54 cas de policiers qui se baladent tranquillement en liberté dans la rue. Donc je lui en ai fait part sur via SMS, il a été de bon jeu, il les a lus. Mais je trouve regrettable aujourd'hui qu'il n'y ait pas assez de voix contestataires, et je ne pense pas qu'au pire je suis le plus virulent et que je ne suis pas comme certaines personnes, je prends l'exemple de M. Dacier, où ça se met à gueuler dans tous les sens et qu'on finit par rien comprendre, je ne pense pas que je suis plus virulent. Et quand moi je vais sur un plateau et qu'on lit la définition du mot terrorisme, on ne dit pas que je suis un terroriste, on le suggère. Vous avez un terroriste à votre table. Vous invitez des terroristes. Voilà comment on nous considère. Donc forcément, à un moment donné, quand on finit par tous appeler tout le monde terroriste et faire l'amalgame entre les gentils et les méchants, ça devient chiant.
Est-ce que parmi les jacobins dont vous brossez le portrait collectif dans votre livre, il y a des sages comme Jérôme Rodriguez ? Est-ce qu'on peut être sage et tenir les discours de conciliation que tient Rodriguez ?
Si ça, je fais ça, faudrait demander à ma mère. Quand même.
Alors, on n'a pas poussé l'enquête jusqu'à appeler votre mère, on va le faire après le plateau.
Que Jérôme Rodriguez soit un sage, indiscutablement, et je ne dis pas ça parce qu'il est là, ça fait partie de ces belles figures, ces belles personnalités qui ont émergé au sein de ce mouvement. J'observe qu'au début, il y avait aussi des femmes, que la violence, souvent policière, amène une virilisation de ce mouvement dans sa représentation. Mais il y avait aussi je ne vais pas toutes les citer parce qu'elles étaient nombreuses.
Cela dit, il y en a toujours,
Il y en a toujours, mais elles sont moins visibles, c'est dommage.
Elles sont très très présentes, faut avoir conscience que pourquoi les femmes sont très présentes dans ce mouvement, parce que ce sont les femmes, les gestionnaires du domicile familial, c'est elles qui gèrent le frigo.
Tu as parfaitement raison.
Donc elles sont les premières concernées par les difficultés qui se posent aujourd'hui dans la famille, et c'est pour ça qu'elles sont les plus téméraires.
Juste comme elles l'ont toujours été.
Moi j'ai des discours de femmes, attention, moi j'ai une femme, elle était prête à dire, si je finis en prison, que j'abandonne mes enfants et que mon mari se barre, je m'en fous, j'irai au bout du combat. Une femme qui est prête à abandonner ses enfants.
Mais les femmes sont toujours les actrices des émeutes frumentaires depuis le Moyen-Âge. Enfin, la marche des femmes, si c'est que des femmes qui vont chercher le roi à Paris.
Moi, j'ai des images de révolution, c'est une femme qui est devant avec une fourche.
Mais oui, mais c'est parce que c'est une émeute frumentaire, c'est la question du pain. Donc, dès que ça touche effectivement donc, à la vie, les femmes sont plus présentes. Par ailleurs, elles sont aussi toujours présentes.
C'est la première à nourrir.
Mais Mathilde, c'est pas à vous qui êtes une féministe. En même temps, c'est sur les marches de la faim, mais aussi il y a un discours politique qui accompagne. Elles ne sont pas que dans une réaction sur le problème du quotidien. Mais je sais qu'on est plus que d'accord. Non, mais attends, alors une question. Moi, derrière mes jacobins, j'en parle en plus. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait deux historiennes. Il y a une historienne, c'est-à-dire quelqu'un qui fait de la recherche à l'université, et il y a un prof d'histoire, avec tout le respect, que... Enfin, ce n'est pas la même chose, la même démarche. Moi, je lis des livres, et j'écris des choses sur la base de livres que j'ai lus, et des gens comme Mathilde Larrière font des recherches historiques. Non, mais c'est important je veux pas...
La hiérarchie étant ainsi
non, mais ce n'est pas une question de hiérarchie, c'est une question, y compris, de rigueur sur les choses. Une fois qu'on a dit ça... Ce que j'appelle les jacobins, ce que j'essaie de faire dans ce bouquin, c'est aussi dire, d'abord parce que ce mot devient extrêmement compliqué et très caricaturé, mais que dans ce club, il y a eu une histoire extrêmement compliquée qui a évolué, il y a eu des ruptures, on en a parlé tout à l'heure, des gens qui se sont affrontés d'abord sur des idées, puis même plus que ça. Et donc c'est difficile d'homogénéiser, si je puis dire, ce qu'étaient totalement ces jacobins. Mais il y a quand même...
La Société des Amis de la Constitution.
Voilà, la Société des Amis de la Constitution, dans ce couvent de Dominicains, dont la maison mère était rue Saint-Jacques et qu'on appelait les Jacobins. D'accord ? Vous voyez, ce nom, il vient de là. Alors, à partir de là, il y avait des débats extrêmement vifs, mais qui ont été, le moteur de cette révolution sur le plan intellectuel. Dans un premier temps, ces gens ne sont pas du tout pour la République, sont plutôt pour une monarchie constitutionnelle. Un homme comme Robespierre ne conçoit pas la République avant 91, 92. Il est comme tout le monde, l'exemple de la Révolution anglaise et de la monarchie constitutionnelle, l'exemple des États-Unis au mieux. Et ils ont sur leur rapport à la République, qui souvent, au niveau d'une cité, ça peut s'appliquer, mais au niveau d'un pays, c'est inconcevable. Et après, on discute sur le suffrage. Certains sont pour le suffrage, mais censitaire que pour les riches. Et d'autres, comme Robespierre, disent « Non, mais le suffrage pour tout le monde ». Que les hommes, pas encore les femmes. Le club des Jacobins, moi je fais un chapitre sur Pauline Léon, Claire Lacombe, mais est très marqué encore par le sexisme ambiant.
Simplement, ma question pour essayer de ramener un peu à la situation d'aujourd'hui et au débat d'aujourd'hui. Là, vous nous parlez des débats de fond qui ont partagé les Jacobins. En même temps, ce qui est frappant quand on vous lit et quand on regarde l'histoire de la Révolution, c'est qu'il y a aussi beaucoup de débats extrêmement passionnels, si vous voulez, qui ne sont pas des débats de fond et qui portent sur le courage, la lâcheté, la trahison. Qu'on regarde, on n'a pas réussi à retrouver d'images des débats au sein de la Société des Jacobins.
Pas retrouver de photos de Robespierre.
Mais en revanche, il y a un certain nombre de films et téléfilms qui ont traité le sujet, dont un mémorable téléfilm de Robert Enrico en 1989. Au moment du bicentenaire de la Révolution. Et je voudrais juste qu'on envoie un extrait. Alors, c'est l'extrait dans lequel on voit la première véritable friction entre Robespierre et Danton, qui sont deux des personnages de votre livre, avec des mots très forts dans la bouche de Danton, qui rappellent un peu les mots des débats actuels.
Je crois que nous devrions nous dire bonne nuit.
Et qu'est-ce qui s'est passé entre toi et moi ? Nous qui avions souhaité les mêmes choses.
Nous n'avons jamais souhaité les mêmes choses, vous et moi.
Liberté, justice, égalité.
Des mots. Vous n'avez jamais compris que si ce n'est la simple vertu du peuple qui seul nous guide.
Oh, la vertu du peuple ? Bien pas l'abstraction.
Vous, bien sûr, pensez que chacun est aussi corrompu que vous-même.
À tes yeux, la seule preuve de vertu est une totale obédience à Maximilien Robespierre.
Ceci ne rime à rien. Permettez-moi de vous dire bonne nuit.
Laisse-moi te dire ce que tu es en train de faire à ce pays avec ta foutue vertu. Tu lui fais ce que je fais à ma femme le soir. Sauf que elle adore ça. Et elle n'a pas besoin d'être tenue couchée en hurlant sous la menace de la guillotine.
Danton, votre réputation d'homme brutal, grossier, vulgaire est bien méritée.
Et pas la tienne. Tu n'as pas de couilles, Robespierre. Tu es un eunuque.
Hors de mon chemin.
– Alors, Mathilde est absolument accablée, mais en même temps, tu es accablée parce que tu te dis que enfin, Danton et Robespierre n'ont pas pu se parler de cette manière-là, c'est pas possible.
Non, non, c'est parce que c'est une espèce de condensé des images noires de l'un comme de l'autre et que ouais. C'est vraiment. C'est, à la fois, c'est l'image noire de Robespierre. Enfin, là, c'est, je vous renvoie au livre de Marc Bellissa et Yannick Bosque qui montre ça très bien, l'image négative de Robespierre. À la fois monstre froid et l'autre vulgaire. Enfin, qu'est-ce que ça apporte à, d'abord, qu'est-ce que ça apporte à la connaissance ? Mais par ailleurs, pour répondre, est-ce qu'ils pouvaient se traiter comme ça que Danton ait prononcé ces mots-là face à Robespierre, j'en sais rien. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'au moment, dans les derniers mois, avant Thermidor et la chute de Robespierre, quand justement une partie des montagnards, bon, plus Danton, parce qu'il n'est plus là, mais se retourne contre Robespierre, circule tout un tas de libelles, de brochures pour construire cette légende noire de Robespierre. Et entre autres, il y a effectivement tout un tas de brochures qui utilisent l'injure sexuelle. Et on a tout
de la même manière que Danton est accusé de corruption.
Sûr, mais ça,
non, mais tout ça pour dire que effectivement ça vole bas.
Mais oui,
aussi
mais...
Ah non, à côté des débats, à côté, débat, à côté non, des débats, à côté des débats magnifiques.
Le reproche que je fais à ça,
et puis c'est pas le même registre. Moi, je vous parle de brochures qui circulent, comme on a pu faire des brochures porno contre Marie-Antoinette. Comme on n'est pas au même niveau. On est dans un espace qui laisse s'exprimer
Et en même temps, dans le livre, il y a un chapitre sur Danton dans lequel effectivement vous étudiez en détail les accusations de corruption qui était
qui était
lancée contre Danton. C'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui?
Mais corruption est unique.
Si on rentre dans un peu pour ceux qui suivent, parce que c'est un peu pointu, bon, par moi Danton que j'aimais pas, je l'aime bien aujourd'hui, notamment suite à des travaux historiens qui ont été faits sous la conduite d'un grand historien qui s'appelle Hervé Levers, qui revient là-dessus, qui montre que bien souvent beaucoup d'attaques qui étaient portées contre Danton n'étaient peut-être pas si vraies, ou que s'il y avait une corruption réelle, en même temps, elle était un peu dans l'usage des temps, ça peut sembler surprenant, etc., etc. Mais une fois qu'on a dit ça, le reproche que je fais à ce film, qui est pardon, de la tarte à la crème, qui divise la révolution entre les années lumière, c'est la partie 1, et les années terribles, ça c'est la partie 2. Regardez rien que la photo, Robespierre a le visage blanc, on dirait un vampire. Danton, lui, il aime les femmes, il boit. Franchement, on a plus envie de passer des soirées avec Danton qu'avec Robespierre qui est glaçant. Tout ça, il y a la pièce de Büchner à un moment donné, tout ça. On psychologise le désaccord à extrême. C'est-à-dire, en gros, c'est plus des tempéraments que des problèmes politiques. Le problème politique, c'est qu'à un moment donné, la question c'est est-ce qu'on continue la révolution, y compris dans son œuvre sociale et démocratique, ou est-ce que des gens comme Danton sont plutôt pour qu'on la stoppe du point de vue du contenu social? D'accord, Danton, lui, par ailleurs, est pour réprimer, par exemple, les hébertistes. Danton met en place les lois. Les hébertistes, c'est une aile plus radicale, on va dire, c'est l'extrême gauche, de l'époque, qui eux sont
traduisés en termes.
Oui, vous avez raison, qui eux, par ailleurs, ont un verbe très violent, qui, y compris quand on relit sur le procès de Marie-Antoinette, c'est Hébert qui s'en occupe. C'est, ça vole pas haut pour
alors,
le coup.
Alors, dans le Père Duchesne, parce que par ailleurs.
Oh là, attention.
Hébert est le rédacteur en chef, on dirait maintenant, du Père Duchesne, qui est un journal qui se caractérise par un ton volontairement, mais outrancier, enfin, c'est foutre, enfin, il insulte. Alors que, en revanche, les prises de parole d'Hébert n'utilisaient absolument pas dans l'échange l'injure. C'est pas du tout un personnage grossier. Là, j'y pense que là, il y a eu un documentaire qui a été fait sur Marie-Antoinette qui le présente lui en personnage grossier. Le journal l'était, mais c'était un choix éditorial.
On en revient à ce que disait Jérôme Mordegaz au début de l'émission, c'est-à-dire que quand on rencontre les gens en vrai, quand on peut avoir un échange avec eux en vrai, ça se passe beaucoup mieux que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ou dans le Père Duchesne à l'époque.
Moi, ce qui m'amuse, là, au final, quand je vois ça, alors je suis peut-être carrément hors sujet, c'est qu'on est là à débattre du moindre petite chose qu'aurait dit un tel, il y a 200 ans en arrière, lui, il aurait dit ceci, et puis c'est beaucoup plus complexe que cela, mais si on va au fond des choses, on va trouver ceci. Et quand je vois le mouvement des Gilets jaunes, alors en tant qu'historienne, vous me répondrez, il n'y aura peut-être pas assez de recul pour peut-être bien analyser les choses. Et moi, j'arrive à les analyser avec tant d'autres parce qu'on les vit de l'intérieur tous les jours. Mais nous, on survole. C'est une bande de fous qui jettent des cailloux parce qu'ils ont juste faim avec une bière dans la main. Vous voyez ?
C'est-à-dire que les médias vous survolent. C'est ça que vous dites.
Voilà. Et quand je vous entends, on essaie de chercher le petit truc qui a fait que pourquoi Robespierre a fait ceci, pourquoi il y a eu des luttes fratricides au sein de cela, et pourquoi au final ils ont bougé comme ceci, pourquoi ils ont eu cette pensée-là. Non, les jaunes, on les survole.
Faut attendre 200 ans.
Les gens ont faim aujourd'hui, tout de suite, si je peux au pire faire la même.
Si tu permets que je.
Oui, mais
l'enjeu, c'est quoi?
Je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Il y a juste un truc. Parce que, voilà. La moitié des mots que vous employez.
Oui, tu as raison.
Personne ne les comprend. Moi, j'en ai noté un, la insurrection des consciences, tout à l'heure, vous avez dit, parce que j'ai envie d'aller creuser le truc. Mais il y a des mots, des fois. Vous savez, moi, c'est des fois ce qui plaît aussi dans mon discours, c'est que je parle, c'est pas péjoratif, le français de comptoir. Voilà. J'ai pas des références baudelairiennes, j'ai pas fait de longues études philosophiques, j'ai réussi à me démerder l'autre jour dans Libération à placer une question philosophique, j'en ai jamais fait dans ma vie. Moi, j'ai une culture populaire, je regarde Spider-Man. Voilà, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, aussi, pour pouvoir vous exprimer, quand vous vous exprimez, il y a des gens qui sont prêts à vous écouter. Et moi, je vous écoute, il y a la moitié des choses. Ça me permet aussi, vous voyez, de faire des transpositions, de réfléchir et d'aller au-delà. Mais c'est pas... Il faudrait essayer d'employer aussi des mots simples pour pouvoir aussi attirer les gens, pour que les gens aussi comprennent mieux. Pour la majeure partie.
Par exemple, Corbière, il parle trop compliqué ?
Non, mais voyez, des mots comme obédience, je ne sais pas ce que c'est, je vais aller chercher ce que c'est.
Jérôme, ce que je veux dire, c'est que moi, comme vous, un client de chaîne d'info, je ne parle pas de la même façon sur BFM, etc., dans le format dont je parlais tout à l'heure, que sur Image, qui est une des rares émissions où on prend du temps, où on a une historienne qui est sur le plateau, où vous décortiquez précisément, et où, en plus, on m'invite sur un bouquin d'histoire. Ce que je veux dire, c'est que je me permets, en plus, avec une spécialiste, d'avoir un niveau, et vous avez parfaitement raison de le souligner, un peu de précision, que évidemment, ce serait ridicule d'avoir ailleurs. Parce que je pense dans la vie que c'est pas du tout être méprisant, que le public, entre guillemets, d'Arrêt sur Image peut être parfois plus exigeant, on va prendre plus de temps que peut-être celui qui allume la télé le soir. Et c'est pour ça.
C'est pas une critique négative.
Quel est le sort de tout mouvement populaire? C'est tout l'enjeu de la discussion. Et à travers la Révolution française, c'est est-ce que chaque fois qu'il y a un mouvement populaire, ce que certains nous disent, c'est que ça finit mal parce que tout ça n'amène que la violence. C'est bien beau vos idées, mais ça finit toujours mal. On l'a fait sur Robespierre Danton, on le fait avec les Gilets jaunes. En gros, ouais, c'est des belles idées, mais tout ça n'est que brutalité, parce que quand le peuple se met en mouvement, il est intrinsèquement violent. C'est la même lecture qu'on veut plaquer sur la Révolution française. C'est pourquoi moi, quand je dis les Jacobins, je dis on peut les critiquer, mais d'abord, revenons, enlevons ce masque caricatural. Qu'est-ce qu'ils ont porté ? Qu'est-ce qu'ils ont réussi ? Sur quoi ils ont échoué ? Par ailleurs, ce sont des vaincus de l'histoire.
Vous avez les enfants du bicentenaire.
Mais moi, c'est ce que je dis dans l'intro du bouquin. Voilà.
Qu'est-ce qu'on voit sur cette image ?
Les enfants du bicentenaire. On est les gamins du bicentenaire. Donc, on est inculqué dans la Révolution. On a étudié ça à l'école. On nous a mis l'accent en 89, je crois. C'était en 89. Hein. Donc, j'avais quoi ? J'avais 10 ans à l'époque. Je me souviens, il y avait des spectacles à l'école, il y avait des choses à la mairie, il y avait tous les gamins avaient le bonnet phrygien, rouge. Et là, vous avez les enfants du bicentenaire, et vous avez aujourd'hui non pas une France de râleurs en face de vous, parce que les râleurs, c'est le mec qui est face à sa télé, à la machine à café, ou face au mur qui râle et qui n'apportera rien. Aujourd'hui, vous avez des contestataires aujourd'hui qui
quand
sont...
Quand vous défilez avec les gilets jaunes, il vous arrive de vous sentir l'héritier de la Révolution ?
Pas forcément, parce que quelque part, toute bonne révolution est assez utopique. Et là, je pense qu'on manque pas mal d'utopie. On est plus sur de l'idéalisme et du concret aujourd'hui. Parce que le concret, c'est la fin du mois. Le concret, c'est le frigo. Le concret, c'est de pouvoir non pas avoir peur de la fin du monde, mais d'avoir peur de la fin du mois. Et si on veut concentrer les gens sur cette fin du monde qu'on nous prédit de par l'écologie, eh ben, il faut déjà nourrir ces gens-là, de leur donner de la valeur. Surtout, et ce qui est important, parce qu'on parle tout le temps de pognon, mais avant le pognon, leur donner un peu de reconnaissance, de crédibilisation, de personnalisation. Demandez le prénom à une personne lambda dans la rue, vous allez voir le bien que ça lui fait. Juste de pouvoir vous donner son prénom, son métier, et de savoir pourquoi il est là. Là, vous savez quoi ? Ici, il y a une mine de pognon à faire, c'est avec les psychologues. Parce que tous ces gens-là ont besoin de parler, ont besoin de cracher 40 ans de quelque chose qui ne va pas. Et on a besoin de les personnaliser. Et c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et quand on aura personnalisé les gens, leur donné un peu de crédibilité et de reconnaissance, vous verrez qu'il y aura beaucoup moins de violence dans ce pays.
Mathilde ?
Non, mais de toute façon, j'entends là, les enfants du bicentenaire, parce que c'est très net. Moi, c'est ce à quoi je fais enfin pas seulement, mais j'y fais attention quand je vais en manifestation gilet jaune ou quand je regarde, il y a plein sur le dos de référence, les dos qui sont
sur le dos du
voilà,
gilet.
Voilà.
C'est magnifique les gilets.
Ah, c'est génial. Et de référence à 1789, hein, plus qu'à 1793, il y a eu l'acte 3, il y avait un tag à côté de l'Arc de Triomphe avec écrit gilet jaune sans culotte, hein, et Macron Louis XVI. Donc effectivement, la Révolution française s'invite, mais comme référence, effectivement, ça ne veut pas dire héritier, ça ne veut pas dire grand-chose, mais s'inscrire dans une longue histoire de révolution. Et une histoire des révolutions, c'est une histoire de peuples qui souffrent, qui se soulèvent et qui parfois se font spolier, voler leur soulèvement par des groupes en général.
Beaucoup disent dans le mouvement qu'on ne refait pas 1789, mmh. On ne fait que continuer 1789. Voilà, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes comme vous qui connaissent un petit peu les dossiers et qui disent que tout n'a pas été fini à l'époque et qu'au final, c'est une simple continuité et qu'on ne fait que continuer le travail de nos grands-parents avec respect et de continuer cette lutte parce qu'on s'aperçoit que, à défaut d'évoluer... Vous savez, moi, je ne parle pas de révolution à ce moment-là. Nous, on est plus dans une évolution. On essaye de faire évoluer les choses. Révolution... Moi, pour moi, ça connote la mort, ça connote foutre le feu à la maison du voisin. Donc, c'est sympa de gueuler révolution dans la rue, mais à 17h, il faut aller chercher le gamin à la crèche. Donc, soyons conscients, on parle peut-être d'évolution, mais pour avoir évolution, il faut savoir être écouté et être entendu en tous les cas.
Ce qu'il y a, c'est que pour moi, la révolution, c'est pas la violence. Alors voilà, gilet jaune sans culotte. Justement, pour moi, c'est pas la violence. Et de fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde, si on regarde par exemple les acteurs de la prise de la Bastille, dans l'imaginaire négatif de la révolution, on imagine des jeunes qui détruisent, etc. En fait, c'est ce que les historiens appellent des hommes faits, essentiellement, c'est-à-dire des hommes de 30, 40 ans qui ont des métiers, qui ont des familles. Leurs femmes sont aussi dans l'émeute. Et donc, on a à la fois une sociologie, une insertion. Quelque part, c'est les mêmes, en fait, qui se soulèvent comme ils se sont soulevés parce qu'au bout du compte, de fait, on n'a pas réglé un certain nombre de ces problèmes. Quoi.
Je crois que c'est toi qui as parlé d'obédience.
C'est moi qui ai parlé d'obédience.
Tu peux expliquer obédience à Jérôme Vandrieu.
En fait, le problème, c'est qu'il faut que je sache dans quel cadre j'ai utilisé un mot. Ouais. C'est-à-dire que, en général, une obédience qui appartient à un courant de pensée. Peut-être c'est comme ça que j'ai dû...
Laisser les gens aller chercher l'information. On a un outil formidable qui s'appelle Google, qu'avec la puissance d'un doigt, on peut avoir l'information. Moi, quand j'étais gamin, on avait le tout l'univers.
Mais c'est vrai que...
Mais là, il y a un outil encore plus formidable qui s'appelle
Mathilde. Le rendez-vous à Varennes, c'est génial.
Non, mais les mots sont très... Ce fait, il faut faire attention, et je suis d'accord avec ce que dit Alexis, ça dépend de l'endroit où on s'exprime. Moi, quand je fais de l'histoire des révolutions sur Twitter, je fais très attention à utiliser des mots qui peuvent être compris le plus facilement possible. Ça l'est peut-être moins, effectivement, ça dépend des plateaux. Puis il y a aussi des fois, quand on est poussé, je n'y peux rien, c'est une espèce d'habitude. Mes mots scientifiques sortent parce que j'ai l'habitude de débattre avec ces mots. Mais vous avez tout à fait raison sur le fait qu'il faut faire attention à la langue qu'on utilise et que être clair, ça...
Un mot de conclusion ?
Moi, j'en aurais un autre dire sur les sur le petit échange là. Sur le petit
Jérôme,
échange. Alors d'abord,
sur l'échange qu'il y a eu, on peut avoir ce genre d'échange au sein des gilets jaunes.
Sur Robespierre.
Ouais, exactement. Ouais. Mais de là à dire ce genre de conneries, je pense qu'on se mettrait vite des pains quand même dans la tronche parce que les mecs ils iront costaud, même si ça reste un film et que ça reste. Ils font référence à la femme que tu prends dans un sens ou dans l'autre, si ça parle comme ça dans les gilets jaunes, il y a longtemps qu'on se serait mis quelques cacahuètes. Non. Mais on peut avoir des discussions houleuses, mais sans forcément se dire des gros mots aussi.
Là où vous êtes les continuateurs, et là où il y a effectivement un fil directeur, c'est que les gilets jaunes aussi, entre eux, ont été pourris par des accusations permanentes d'ambition personnelle.
Il faut faire la différence entre exister et notoriété. Et beaucoup se sont trompés.
Moi, je voulais dire, remercier Jérôme Rodriguez, qu'il a fait ma journée. Le fait de dire les gilets jaunes sont les enfants du bicentenaire, je trouve ça formidable.
Elle n'est pas de moi, elle est d'un gilet jaune, bon, je tiens à préciser.
On le remerciera. Mais moi, c'est mon idée, mais je crois que je ne suis pas le seul, de voir comment, bien sûr, la France 2019 n'est pas celle d'il y a 200 ans, mais comment tout cet imaginaire politique, parce qu'il nous a éduqués, vous l'avez parfaitement dit, les gens se sont mis des bonnets phrygiens sur la tête, ont rechanté la Marseillaise. J'invite chacun à regarder la petite revue Plein le dos là, qui a montré tous ces dos de gilets jaunes, et j'en parle. Et ça montre qu'il y a des promesses qui sont encore inachevées de la Révolution française. C'est tout l'idée. Et moi, mon idée, c'est qu'on ne peut pas faire aimer la République dont on ne cesse de parler si on fait détester la Révolution française et tous ces idéaux qui ont été des moteurs et pour lesquels des gens se sont affrontés. C'est une évidence. Mais ça, ça reste beau et grand, un pays qui a la passion de l'égalité, où les gens ne se résignent pas, où les gens savent que ce pays a été constitué d'une grande révolution populaire qui a mis à bas une aristocratie, mais qui ne veut pas d'une nouvelle aristocratie, celle des riches. Cette actualité d'un passé, moi, je trouve ça formidable.
Allez, on va arrêter là cette émission qui a d'ailleurs été davantage une rencontre qu'un débat. Je vous remercie d'y avoir participé. Merci à tous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine. Et voilà, c'est terminé. Si vous avez regardé ou écouté cette émission sans être abonné, c'est que nos abonnés vous l'ont offerte. Sans abonné, pas d'arrêt sur image. Alors vous aussi, abonnez-vous.